Vous écoutez France Culture.
C'est l'heure du journal de la rédaction avec vous Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Romain, bonjour à toutes et à tous. Un homme a tué ce matin deux membres de sa famille à l'arme blanche et en a blessé une autre à Trappes dans les Yvelines avant d'être lui-même abattu par des policiers. Il serait a priori fiché S et connu pour apologie du terrorisme, une attaque revendiquée par Daesh. Tous les premiers détails dès le début de ce journal avec Christine Monclat. Le gouvernement italien a finalement accepté hier soir de libérer les mineurs bloqués à bord du Diciotti dans le port de Catane. En revanche, les 155 adultes, eux, n'ont pas reçu l'autorisation de débarquer. Une politique migratoire intransigeante qui semble convaincre, qui plus est, l'électorat italien, du moins à en croire les derniers sondages favorables à la Ligue d'extrême droite. Nous serons en ligne à Rome avec Mathilde Imberti. Les États-Unis et la Chine ont ouvert ce jeudi un nouveau chapitre de leur guerre commerciale avec la mise en place par les deux parties de droits de douane, correspondance à suivre depuis Shanghai. Et puis avec Mathieu Laurent, nous nous interrogerons également sur la pertinence ou non de cette politique agressive de sanctions menée par les États-Unis et qui tente à se multiplier. Enfin, 12h45, vous retrouverez évidemment la grande table d'été avec vous, Romain Bec-de-Lièvre, au menu aujourd'hui.
Une première partie sur l'adaptation de Mélancolie ouvrière, l'essai de Michel Perrault, et en seconde partie, un portrait de la romancière Sophie d'Ivry.
Merci et à tout à l'heure. La confusion ce matin donc à Trappes après qu'un homme a tué sa mère et sa sœur au couteau et a blessé grièvement une troisième personne avant d'être finalement abattu par les forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, ainsi que le procureur de la République de Paris, François Molins, sont sur place. Christine Monclat, bonjour.
Bonjour Thomas.
À l'heure actuelle, les autorités tentent toujours de déterminer si cet acte revendiqué depuis par Daesh, mais au mobile, on le voit encore confus, revêt ou non un caractère terroriste.
Oui, d'autant que les deux personnes tuées ce matin seraient la mère et la sœur de l'attaquant. Une information donnée par plusieurs médias, ce qui conduirait logiquement vers la piste du différend familial. Mais d'autres confrères le signalent effectivement fiché S, comme vous le disiez, et d'après nos informations, recueillies celles-ci au sein du gouvernement, l'homme serait même fiché SRPT, c'est-à-dire signalement pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. On entrerait là dans une toute autre catégorie. C'est un fichier bien plus serré que le fichier S et qui concerne uniquement les islamistes radicaux. Et tout cela, bien sûr, sans que cela ne nous dise rien de ses motivations pour ce matin. Alors, pour ce que l'on sait, cet homme de Trappes, âgé de 36 ans, a commencé à poignarder des personnes dans une rue calme de Trappes vers 10 heures avant de se retrancher dans un pavillon, d'en ressortir arme au poing face aux policiers des Yvelines qui l'ont donc abattu. Le raid n'est pas intervenu, précise d'ailleurs la préfecture du département. Plusieurs témoins affirment avoir entendu cet homme crier « Allahu Akbar » au moment des faits. S'ajoute à cela la revendication par le groupe État islamiste via son organe de propagande. Revendication à prendre avec beaucoup de précautions, surtout car Daesh multiplie ces temps-ci les revendications dites opportunistes. Alors tout cela n'est pas encore confirmé officiellement par les autorités. C'est Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, qui va délivrer les informations qu'il a en sa possession d'ici quelques minutes. Il est accompagné du procureur de Paris, François Molins, mais ajoutons qu'à ce stade, la section antiterroriste du parquet n'a pas été saisie.
Merci Christine Monclat. Et puis, puisque vous parliez à l'instant de Daesh, j'ajoute que pour la première fois en près d'un an, le chef de l'organisation État islamique Abou Bakr al-Baghdadi est réapparu dans un enregistrement de 55 minutes, enregistrement dont l'authenticité toutefois n'a pas encore pu être vérifiée. Dans ce message de propagande, il appelle ses partisans à poursuivre le djihad. En Italie, on savait déjà que l'imbroglio autour du Diciotti, du nom de ce bateau des gardes-côtes italiens bloqué au port de Catane avec 177 migrants à son bord, était une illustration supplémentaire des tensions entre l'Italie et ses partenaires européens autour de la gestion des migrants. Et depuis ce matin, eh bien, nous avons qui plus est la confirmation que cette politique intransigeante du ministre de l'Intérieur en la matière, Matteo Salvini, n'entame en rien la popularité de son parti, la Ligue d'extrême droite. Mathilde Imberti, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes en direct de Rome, alors le navire Diciotti est toujours bloqué au port de Catane. Les mineurs ont pu en descendre hier soir, en revanche le sort des 155 adultes reste tout à fait incertain.
Oui, absolument. 29 mineurs précisément ont pu mettre pied à terre tard dans la soirée et rejoindre des centres d'accueil. Restent bloqués dans le navire ce midi 150 environ, un petit peu moins 148, hein, lit-on dans les médias italiens, migrants adultes avec une situation critique à bord. Plusieurs cas de gale ont été recensés par un magistrat sicilien qui a pu monter. Donc le feu vert du débarquement des mineurs a été donné par Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur, mais il n'autorise pas les adultes à débarquer et il défie une nouvelle fois l'Europe, Matteo Salvini.
Si l'Europe existe, qu'elle le démontre. Personne ne débarquera avec mon accord. Les Italiens ont déjà donné, ils ont trop payé. Si l'Europe ne fait pas son travail, en ce qui me concerne, j'estime que ces navires peuvent repartir de là où ils viennent.
Le ministre de l'Intérieur qui poursuit son bras de fer avec l'Europe, vous l'entendez, il en entame un également avec la magistrature italienne qu'il vienne m'interroger, lance-t-il à l'attention des parquets qui ont ouvert sur ce cas d'Itchoti des enquêtes pour séquestration de personnes.
Et puis cette ligne dure adoptée par Matteo Salvini, Mathilde, on le disait, n'entame en rien donc sa popularité, bien au contraire.
Oui, en effet, la popularité du ministre progresse, si l'on en croit les sondages d'opinion. Alors, les derniers sondages ont été réalisés la première semaine d'août, alors que plusieurs bateaux déjà avaient été bloqués en Italie et forcés de faire route vers d'autres pays. C'est une politique qui convainc l'électorat, analyse Antonio Noto, que j'ai joint ce matin. Il est le directeur de l'Institut IPR Marketing.
La confiance des Italiens est en croissance continue, que ce soit envers la Ligue ou envers Matteo Salvini. Selon nos dernières estimations, plus de 30% des Italiens accordent leur confiance à la Ligue, 31 à 32%. Il y a deux facteurs. D'une part, la Ligue a réussi à faire passer auprès des Italiens l'idée que le thème de l'immigration est central pour l'économie italienne. D'autre part, l'opposition n'a pas su lui opposer un contre-message.
Voilà, 30% de consensus pour la Ligue de Matteo Salvini, qui est devenu en 5 mois le premier parti d'Italie.
Merci Mathilde Imberti, en direct de Rome. Son slogan de campagne America First ne pouvait être plus clair. Dès lors, doit-on s'étonner de la multiplication ces derniers mois des sanctions unilatérales mises en œuvre par Donald Trump contre ses ennemis et parfois même ses alliés. Sans doute pas. Dernier exemple en date cette nuit, presque parce que Washington accuse Pékin de pratiques commerciales déloyales. L'administration américaine a frappé d'une nouvelle salve de taxes douanières quelques 16 milliards de dollars de produits chinois importés aux États-Unis. C'est à quoi Pékin a d'ailleurs aussitôt répliqué avec l'adoption de sanctions équivalentes. De quoi douter donc de l'issue de la deuxième journée de discussion prévue entre Américains et Chinois pour tenter de mettre fin à la guerre économique entre les deux premières puissances économiques mondiale. C'est une correspondance à Shanghai, signée Simon Leplâtre.
C'était une peine avec sursis. Début juillet, quand les États-Unis et la Chine avaient promis des droits de douane réciproques sur 50 milliards de produits, ils avaient appliqué un système à double détente. 34 milliards de produits importés étaient taxés immédiatement et pour les 16 autres milliards, la peine était suspendue à d'éventuelles avancées dans les négociations. Peine perdue, les deux parties ne se sont pas reparlées depuis. Au contraire, Donald Trump a même menacé de taxer 200 milliards de produits chinois cet été. Intolérable pour la Chine, le ministère chinois du commerce s'est dit contraint à de nécessaires représailles. Avant d'annoncer des sanctions sur 16 milliards de dollars de biens américains importés en Chine, dont par exemple les motos Harley Davidson, le bourbon ou le jus d'orange. La Chine menace aussi de saisir l'Organisation mondiale du commerce. Ces nouvelles sanctions n'augurent rien de bon pour les négociations en cours, car après 3 mois sans se parler, une délégation chinoise est en ce moment à Washington. Avec ces sanctions, les Américains, confiants grâce à leur économie en plein boom, ajoutent un peu de pression sur les Chinois. Mais pas sûr que la Chine soit prête à lâcher plus de lest. Elle a déjà fait quelques gestes au début du conflit, au printemps, sans succès, et peine désormais à comprendre la position des Américains. De plus en plus, les Chinois sont persuadés que pour le président américain et ses conseillers très anti-chinois, il ne s'agit pas seulement de rétablir la balance commerciale, mais carrément d'empêcher la Chine de devenir un jour la première puissance économique mondiale.
Alors si les mesures de rétorsion unilatérale semblent devenues l'arme de prédilection de la politique extérieure de l'administration Trump, ça n'est pas tout à fait une nouveauté. Cette politique des sanctions s'ancre en réalité dans une tradition américaine beaucoup plus ancienne. Mathieu Laurent, bonjour.
Bonjour Thomas et bonjour à tous.
S'agissant en revanche de l'administration actuelle, il semblerait que cette politique traduise davantage une absence de stratégie, au point d'ailleurs que les États-Unis pourraient même in fine être pris à leur propre piège.
Oui, vous l'avez dit, les sanctions ont toujours été une pièce maîtresse
des administrations américaines, républicaines comme démocrates. Mais à ce point, elles dominent aujourd'hui ce qui fait office de politique étrangère jusqu'à poser question aux analystes économiques à très haute dose. Ne serait-elle pas contre-productive à moyen terme? Les négociations en cours à Washington avec une délégation chinoise en témoignent. La Chine est prête à dérouter ses exportations des couloirs d'accès américains tout en fertilisant la consommation intérieure, accélérateur de croissance d'une économie en transition telle que Xi Jinping l'a rêvé. Le commerce, c'est la guerre, martèle le milliardaire président. La guerre au mépris de lourds rejaillissements sur son allié turc, par exemple, la livre n'a-t-elle pas mordu la poussière? Ces rafales de sanctions contre l'Iran, la Russie, le Venezuela, la Corée du Nord, sans compter les menaces proférées contre l'Union européenne, servent certes l'ancienne Make America Great Again, mais elles pourraient se retourner contre l'économie américaine et contredire le slogan préféré de Donald Trump, vous l'avez livré Thomas, America's First. C'est encore vrai. Le dollar reste fort et cette stratégie monocorde court-termiste n'a d'autre objectif que de remporter ou bien de ne pas perdre les midterms, les élections de mi-mandat en novembre prochain. Mais au-delà, qu'en sera-t-il quand les consommateurs et les entreprises américaines paieront le prix de ces salves douanières? Et un usage abusif de ces sanctions devenues l'alpha et l'oméga de toutes les confrontations engagées ne peut se substituer à une politique étrangère charpentée. Donald Trump ne gouverne pas, il négocie en bombant le torse, un rapport de force qui appartient au passé, d'avant le multilatéralisme, une lecture qui nie les réalités économiques d'aujourd'hui, celles d'un monde globalisé.
Merci Mathieu Laurent. Après le gouvernement hier, c'est au tour des partis d'opposition de faire leur rentrée politique aujourd'hui quand les élus socialistes se retrouvent à La Rochelle sans François Hollande. Europe Écologie Les Verts organise son rassemblement à Strasbourg. Enfin, la France Insoumise, elle investit la terre d'élection de Jean-Luc Mélenchon à Marseille. Camille Manière, bonjour.
Bonjour.
Même si les ambitions des uns et des autres doivent encore s'apprécier à des degrés divers, de commencer par sortir de l'ombre jusqu'à rassembler, voire mobiliser davantage encore, tous auront, quoi qu'il en soit, le regard fixé sur la même échéance, les élections européenne.
Les élections qui sont programmées pour fin mai 2019, on en est encore donc aux prémices de cette campagne, mais elle est clairement au cœur de la rentrée à gauche. Dans la langue de Jean-Luc Mélenchon, ça donne cette volonté affichée de faire de l'élection à venir, je cite, un référendum anti-Macron, le chef de l'État qui incarne, selon le député marseillais, l'Europe à la sauce Merkel. Pour ce qui est de la stratégie électorale de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon rappelle que sa formation est déjà en ordre de bataille, comprenez, prête à y aller seule, mais la main est éternellement tendu aux socialistes les plus à gauche, tendance Emmanuel Morel ou Marie-Noëlle Lindemann. Des socialistes qui sont réunis à minima 100 militants à La Rochelle ce week-end. L'urgence pour les cadres du PS, c'est bel et bien de trouver une tête de liste. Ce matin encore sur France Info, le commissaire européen Pierre Moscovici a eu du mal à cacher ses ambitions, mais il incarne une ligne très social-démocrate, voire centriste, pas si éloignée de celle d'Emmanuel Macron. Chez les écologistes, contrairement à ce qu'affirme Yannick Jadot, le consensus c'est loin d'être fait encore sur la stratégie de faire campagne en solo. De nombreuses voix défendent toujours l'idée d'une alliance avec Génération, le mouvement de Benoît Hamon qui, faute d'union avec les Verts, il faut bien le dire, se retrouvera très très esselé. Enfin, le Parti communiste, lui aussi, va tenir son université d'été à partir de demain à Angers, mais le programme, là, évoque à peine l'échéance des européennes. Avant cela, les communistes tiendront leur congrès au mois de novembre. Alors, pour l'heure, eux aussi s'alignent en solitaire avec l'adjoint à la maire de Paris, Yann Brossat, comme tête de liste. Mais l'élection, rappelons-le, c'est dans 9 mois.
Merci Camille Magnard. 58 millions de journées travaillées ont été perdues en 2016 à cause d'accidents ou de maladies professionnelles. C'est peu de dire que le sujet est politiquement hautement sensible, au point que le rapport sur la santé au travail commandé à la députée de La République En Marche, Charlotte Lecoq, a déjà dû être reporté à plusieurs reprises. Il devrait finalement être remis au gouvernement en début de semaine prochaine. Le magazine Santé et Travail en a d'ailleurs publié le contenu en avant-première et on y apprend notamment à Anne Fauquemberg que la députée suggère de créer un organisme unique dédié à ce sujet.
Un sujet sensible attribué à une spécialiste des risques psychosociaux. Charlotte Lecoq, 41 ans, consultante en management pendant 10 ans avant de faire tomber le républicain Thierry Lazzaro et de prendre son ticket pour le Parlement. Mais son expérience et son profil suffiront-ils à faire évoluer les mentalités? Depuis 2010, année qui marque aussi le début de l'enquête dans l'affaire des suicides chez France Télécom, une dizaine de rapports ont été réalisés par le Sénat ou encore l'Assemblée nationale. Aujourd'hui pourtant, les réponses concrètes sont toujours difficile à mettre en œuvre, explique Tariq Chakor. Il est maître de conférences en sciences de gestion à l'université Savoie-Mont-Blanc.
La question du stress, de la souffrance au travail, c'est un sujet qui est très important et c'est accepté quasiment par tous les acteurs. Sauf qu'il y a une vraie difficulté à parler de ces questions-là parce qu'il n'existe pas de consensus autour des mots MOTS pour désigner les mots MAUX. Dès que l'on parle de stress, dès que l'on parle de qualité de vie au travail, dès que l'on parle de souffrance, etc., il existe vraiment énormément de réalités sociales derrière ces termes-là. Pour un même terme, on peut avoir des définitions très différentes. Et derrière ça, il y a des enjeux stratégiques, voire des enjeux politiques.
Un sujet qui peut donc générer plus de tensions qu'il n'en résout, selon le chercheur. Il donne l'exemple de Xavier Darcos. En 2009, l'ex-ministre du Travail avait tenté un plan de lutte contre le stress dans les entreprises. Il s'agissait de publier un classement des sociétés plus ou moins vertueuses dans une logique anglo-saxonne de name and shame, littéralement nommer et faire honte. Eh bien, cette liste, elle a survécu moins de 24 heures.
Et avant de terminer ce journal, je précise donc s'agissant de cette attaque au couteau ce matin à Trappes que le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, évoque un individu ayant de gros problèmes psychiatriques, mais confirme notre information. Il était bien fiché au répertoire des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Un mot de météo rapide pour terminer. De la Bretagne et des Pays de la Loire au Hauts-de-France, le temps restera le plus souvent très nuageux. Partout ailleurs, le ciel sera lumineux. Les températures cet après-midi comprises entre 19 et 34 degrés. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Il était réalisé par M. Le Chili. Je vous retrouve à 18h pour le prochain rendez-vous de la rédaction.